Raymond Richard et Chantal Lobateau sont à l'antenne pour Terre solidaire qui est à la technique. Et pour cette émission, nous allons évoquer les objectifs du développement. Les premiers objectifs du millénaire pour le développement, c'était 2000-2015. La période s'achève. Le temps de faire un bilan, donc, et puis de voir quels sont les nouveaux objectifs. Alors, tout d'abord, le bilan. Pourquoi on peut dire une année charnière? Alors, le bilan, eh bien, il y a ce qui est positif et ce qui est un peu moins bon. Mais regardons-y de plus près. Éducation.
Le bilan, il est bien contrasté. Quand on regarde d'un point de vue global, c'est vrai que le taux d'accès à l'école primaire s'est amélioré, mais un enfant sur 10 n'est toujours pas scolarisé. Ce qui veut dire que les autres sont scolarisés. Donc, c'est quand même un beau progrès.
Voilà.
De plus, dans tous les pays de développement, le taux de fréquentation a fait plutôt du surplace, donc ce qui est plutôt pas mauvais. On a ouvert l'accès aux écoles et en plus, on maintient la fréquentation dans les écoles, donc c'est pas mal.
Bon alors, aspect négatif, 27% quittent l'école sans maîtriser la lecture et l'écriture, donc les connaissances de base. Et puis, il y a un nombre d'analphabètes important, puisqu'il y a plus de 10% de la population mondiale, puisqu'on est à 780 millions d'adultes et 126 millions de jeunes, ce qui nous fait quand même pas loin d'un milliard d'analphabètes. Et puis, toujours ce recul, les femmes, elles sont moins bien alphabétisées que les hommes. Donc, 60% de femmes ne savent toujours ni lire ni écrire parmi ces populations analphabètes.
Et quittent l'école très très tôt, quoi, oui. Elles doivent quitter l'école très
Alors,
tôt.
Par contre, au point de vue de l'alimentation, c'est mieux. C'est mieux puisqu'on a toujours le même taux de personnes qui souffrent de la faim, mais comme la population a augmenté, ça veut dire que c'est mieux. Et puis enfin, en ce qui concerne le développement, mesuré par les dollars par habitant, la population dont le revenu est inférieur à 1 dollar par jour a été divisée de moitié en 5 ans. Donc, ça n'est plus que 22%. Mais tout de même... Quand on songe, 22% de la population de la planète a moins de 1 dollar par jour pour vivre. Le nombre d'emplois a progressé, mais la feuille de route n'est quand même pas tout à fait complète. En ce qui concerne la santé, où en est-on ?
Alors là, il y a eu des réels succès au niveau du recul de la tuberculose dans le monde. Il y a eu de réels succès aussi dans le recul du paludisme.
Ça a chuté oui, la de moitié, plus de... ça c'est vraiment, on peut
c'est
dire,
extraordinaire,
bravo.
Voilà, oui. Surtout quand on sait l'étendue de la zone palu. Donc ça c'est important. Il y a aussi une grande reculade de virus VIH, bien qu'on note encore que les... enfin, ça a baissé de moitié aussi entre 2001 et 2012, les nouvelles infections. Donc c'est quand même des...
Voilà.
On peut appeler ça du succès, quoi. En 10 ans, en moins de 10 ans, réduire de moitié le...
On peut remarquer d'ailleurs que comme le sida affectait aussi les pays du Nord, du coup les progrès ont été beaucoup plus rapides que pour le paludisme, où les pays du Nord étaient beaucoup moins infectés. Par contre, ce paludisme, le taux de mortalité a chuté de 42%, donc bravo. Et puis, pour la mortalité infantile, elle a diminué de moitié. On est maintenant à 48 enfants qui meurent avant l'âge de 1 an pour 1000 naissances. Ce qui veut dire que c'est mieux. C'est vrai qu'on peut mieux faire.
Et ces succès au niveau santé, en fait, ils ont pu être renforcés grâce au développement tel que l'accès à l'eau potable, tel que l'assainissement, ce qui a permis donc de contribuer à une meilleure
Alors, quand
hygiène.
On y regarde de plus près, ça, ce sont les chiffres en gros. Quand on y regarde de plus près, on voit que ces progrès ont été réalisés notamment en Asie du Sud-Est, notamment en Chine, en Inde, mais que par contre, en Afrique subsaharienne, il y a beaucoup de choses encore à faire. Donc, si vous voulez, derrière les progrès, eh bien, il y a une certaine inégalité géographique et les progrès ont été réalisés dans certains pays, notamment l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine. Pour l'Afrique, il faut encore faire des progrès. La croissance durable, ça, c'est encore en panne. Et puis, surtout, on perçoit que l'augmentation de la population, l'augmentation des besoins, puisque le niveau de vie s'améliore, les populations riches des pays du Sud trouvent que le modèle américain ou européen, c'est pas mal. Et évidemment, elles se mettent aussi à consommer des produits, y compris des produits qui exigent des ressources. Alors, ce qui veut dire que les forêts, les ressources, sont bien malmenées. Donc la croissance durable est encore à revoir. Et en ce qui concerne l'eau, eh bien, nous n'avons pas réussi à faire que l'eau soit considérée comme un bien non marchandisable. On achète l'eau, donc l'eau n'est pas distribuée équitablement et on peut dire quand même que l'eau, c'est un bien basique. L'accès aux services d'assainissement s'améliore, mais on a encore 2,5 milliards de personnes qui ne sont pas raccordées à un service d'assainissement.
Ce qui sont finalement, c'est des volets qui montrent encore tout le travail qu'il y a à faire pour lutter contre la pauvreté, parce que ça fait partie des critères où là, on distingue vraiment que la pauvreté, elle est encore répandue dans certains continents.
Donc, encore, 750 millions de personnes dépendent de sources d'eau insalubres. Donc, à peu près autant de personnes ont faim, autant de personnes ont de l'eau sale pour boire. Donc, on voit quand même des progrès nécessaires. Nous allons faire une pause musicale pour voir, bien justement, les engagements qui sont pris pour améliorer la situation. Toujours dans l'émission Terre solidaire, nous évoquions les objectifs du développement, nouveaux objectifs pour la période 2015-2030. Donc, il y a des progrès et au mois de septembre, aux Nations Unies, la conférence s'est tenue pour développer les nouveaux objectifs.
Alors, ça veut dire qu'en plus des politiques de lutte contre la pauvreté, d'accès à l'eau potable, d'accès à l'assainissement, il y aura d'autres volets comme l'accès à l'énergie, au développement d'une industrie durable et aussi pour l'établissement d'une justice pour tous. Et un développement donc qui aujourd'hui ne se limiterait pas simplement qu'aux besoins de base, parce que comme tu l'as dit Raymond tout à l'heure, le niveau de vie augmente, donc il faut aussi élargir les volets du développement durable.
Bon, alors c'est pas encore le téléphone portable pour tous, mais c'est peut-être quand même permettre d'habiter dans une société pacifiée et ouverte, dans laquelle les besoins de base sont satisfaits. Alors pour y arriver, il faut quand même une volonté politique très importante parce que dans certains cas, les gouvernements se montrent réticents pour que l'accès à l'école pour tous intervienne. Imaginez, dans un budget, c'est beaucoup plus difficile de ne pas satisfaire des adultes qui manifestent que des enfants qui ne vont pas à l'école, et on sait bien que les petites filles ne vont pas défiler devant les fenêtres du ministre. Donc, l'école pour tous, la lutte contre le paludisme, les traitements efficaces gagnent du terrain, mais le budget annuel mondial pour traiter n'est toujours pas là. Et puis, il y a cette bonne volonté affichée, mais derrière la bonne volonté, il faut les moyens financiers. Donc, pour déployer un modèle de croissance plus juste, il faut de l'argent. Et par exemple, si en 2010, l'Assemblée de l'ONU reconnaît que l'accès à l'eau et à l'assainissement est un droit de l'homme et demande une couverture universelle, on a oublié de voir comment on pouvait y arriver.
Donc, surtout à une époque où l'État finalement se retire petit à petit, où les aides publiques diminuent et qu'on a de plus en plus recours au secteur privé.
Aux sociétés civiles, et donc là aussi, ça veut dire que ou bien il faut les encadrer politiquement de façon très très sérieuse, mais les gouvernements des pays du Sud, disons, la corruption existe au Nord et au Sud, mais pour encadrer des entreprises qui doivent assurer l'eau potable, qui doivent assurer tous ces services, eh bien, il y a à réfléchir ensemble aux politiques de développement. Alors, c'est ce qui se fait dans des conférences, et notamment, on peut se poser quelquefois la question, pourquoi les choses ne s'améliorent-elles pas ? Parce qu'on voit aussi que les pays en développement ne veulent pas suivre les dispositions prises dans ces grandes conférences. Notamment, par exemple, lorsqu'on dit on va diminuer le CO2, ça veut dire on va diminuer le charbon, on va diminuer le bois, on ne peut plus brûler le bois au fond de son jardin. Oui, mais dans les pays des tiers-mondes, c'était même une manière de préparer le champ.
C'était pour défricher, c'est pour aussi défricher. Le pare-feu pour arrêter un incendie, ben on crée un autre incendie. Donc en fait, je veux dire, le feu n'était pas quelque chose de...
Donc on voit que même s'il y a des initiatives fortes, il faut... Pour convaincre les pays en développement d'obéir à ces injonctions, eh bien, il faut peut-être qu'ils aient la parole et qu'il y ait des compensations financières qui les aident à ne pas recourir à ces moyens qui polluent la planète pour défricher, par exemple. Mais dans ce cas, comment les aider ? Et là, il faut une aide publique, il faut des finances et il faut une solidarité Nord-Sud. Donc, il faut une réflexion ensemble. Et non pas simplement des injonctions du Nord qui sont prises et qui obligent les pays du Sud à suivre. Ce qui fait que, dans ces conférences, quelquefois, cela ressemble à des vœux pieux.
Oui, mais en même temps, elles ont l'avantage, ces conférences, de rappeler que justement un dialogue est en train de s'établir entre Nord et Sud, que maintenant on sait qu'on ne peut pas établir une feuille de route de façon isolée, qu'on doit prendre en compte les disparités des différentes réalités et des moyens financiers. Donc, on n'a pas encore trouvé la solution miracle, ça ne sera jamais miraculeux ni rapide, mais au moins il y a cette réflexion de dire « cette feuille de route, on ne peut plus la faire tout seul ». Donc déjà c'est important, se poser la question comment on va financer, sachant que ça soit au sud ou au nord, l'État se désengage, mais par contre il y a une société civile qui s'exprime de plus en plus forte, hein, et ça se voit aussi dans les pays émergents, mais dans les pays en voie d'émergence, si j'ose dire, où les sociétés civiles se constituent petit à petit, puisqu'il y a davantage de personnes qui vont à l'école, il y a davantage de gens éduqués, donc ça se constitue.
Jouons l'espérance, soyons positifs. Oui, oui. Et puis, un autre élément pour être positif, c'est que parmi les pays du Sud, il y a de grands pays comme le Brésil, le Mexique, la Chine, qui ne s'en laissent pas compter. Et il est bien évident que lorsque la Chine prend des dispositions concernant l'environnement, lorsqu'elle suit ces dispositions en contrepartie d'autres accords, eh bien... le Guatemala ou le Costa Rica, qui eux n'ont pas grand-chose à dire, même si dans ces grandes assemblées, le principe c'est un pays, une voix, là, on voit que les pays du Sud ne sont pas démunis, puisqu'ils ont aussi de grands leaders comme la Chine ou bien le Brésil. Ce qui fait que, ne désespérons pas, peut-être que, après ces grandes conférences, avec ces grandes conférences, eh bien, on verra la vie sur la Terre s'améliorer pour tous. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite, et on souhaite beaucoup de succès à la COP21. Et à tous en attendant, je vous dis bonne semaine. Au revoir.